m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir, chers auditeurs, bienvenue sur le plateau de Restons Courtois, l'émission tous les soirs de Radio Courtoisie. Je suis Marc Hainaut de Valeurs Actuelles, car comme tous les jeudis, c'est Valeurs Actuelles qui est aux commandes, et je suis en plateau avec Thomas Morel. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Marc.
Thomas Morel qui travaille pour le service Société Économie, pour les deux services ensemble. Enfin, Thomas est assez multitâche, vous le verrez dans les débats qui vont suivre. Et nous accueillons l'historien Reynald Secher. Bonsoir Reynald, comment allez-vous ?
Bonsoir Marc, très bien, et vous-même, malgré cette chaleur
Les studios sont un petit peu climatisés. Grand merci aux auditeurs et aux auditeurs et aux donateurs qui nous permettent de passer l'émission dans de bonnes conditions. Vous pouvez bien évidemment réagir à cette émission qui est aussi la vôtre par courriel à l'adresse courtoisière@rc.fr et je vous donne le numéro du standard dès que je le retrouve. Beaucoup d'invités vont se succéder. Nous sommes avec Reynald Secher jusqu'à 18h15. Nous retrouvons ensuite Nicolas Boutin de 18h15 à 18h30. Nicolas Boutin, auteur d'une très bonne enquête sur le marché du mortier. Ces feux d'artifice utilisés bien évidemment par les jeunes, par nos chers jeunes comme arme par destination contre les forces de l'ordre. Nicolas Boutin s'est penché là-dessus, beaucoup de révélations exclusives. Nous recevrons ensuite le député du Pas-de-Calais, Emmanuel Bléry, député du Rassemblement National, en pointe dans la lutte contre la prolifération du loup. En effet, les débats parlementaires sur le loup se concentrent actuellement autour du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricole examiné à l'Assemblée Nationale depuis le 19 mai, un examen qui devrait se conclure le 2 juin par un vote solennel, mais les partisans de la régulation du loup ont connu quelques victoires législatives récemment, on y reviendra avec le député du Pas-de-Calais. Et enfin, nous finirons par un petit débat avec nos chroniqueurs présents. Nous attendons Étienne Darjac qui, comme à son habitude, est parfaitement à l'heure, mais on ne désespère pas de le voir arriver bientôt. Reynald Secher, on va quand même vous présenter. Vous êtes un historien qui, depuis plusieurs décennies, bouscule les certitudes et ravive des débats essentiels sur notre mémoire nationale. Vous êtes un spécialiste de la Révolution française, auteur de nombreux ouvrages traduits à l'international. Vous avez notamment consacré vos travaux à la guerre de Vendée, à ce que vous qualifiez de premier génocide moderne, une thèse qui a provoqué évidemment une déflagration dans le milieu universitaire français. En menant ces travaux, vous êtes passé dans le camp des révisionnistes historiques, en tout cas d'après certains de vos contempteurs. Nous célébrons aujourd'hui, peut-on célébrer cela, le 40e anniversaire de cette thèse à peu près, qui vous a valu justement vos lettres de noblesse, mais aussi pour certains universitaires le sceau d'infamie. Reynald Secher, une question très simple, un peu en forme de tocade, 40 ans plus tard, est-ce que vous regrettez d'avoir commis cette thèse et donc quelque part sacrifié votre carrière universitaire ?
Non, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette thèse et de l'avoir soutenue, parce que ce sont deux actes différents, puisque nous étions dans le cadre du bicentenaire de la Révolution française, que François Mitterrand, président socialiste de la France, voulait faire une commémoration universelle sur 10 ans, et tout de même je suis fier d'avoir bloqué cette commémoration, puisqu'on ne pouvait plus décemment aller au-delà de 1989. D'ailleurs, la gauche m'en a beaucoup voulu à ce niveau-là. Alors donc, je ne regrette pas pour cette raison. Deuxième chose, je ne regrette pas non plus parce que j'ai fait acte de justice au niveau national, mais aussi acte de justice au niveau des Vendéens, qui ont compris grâce à cette thèse qu'ils n'étaient pas du tout dans le cadre d'une guerre civile, mais dans un système d'extermination. On pourra en parler tout à l'heure, si vous le désirez.
On va en parler, bien évidemment.
Et donc, ça change tout. Et vous parliez de la période moderne tout à l'heure. Non, en fait, c'est le premier palier de la période contemporaine, parce que grâce à moi, on est passé de la période moderne à la période contemporaine, et j'ai bousculé justement les grandes chronologies de l'histoire de France, et je crois que cette thèse a participé activement à démontrer que la Révolution française n'était pas la fin d'un cycle, mais la première marche d'un nouveau cycle.
Alors mes études d'histoire sont un petit peu anciennes, mais effectivement ça se découpe. Il y a l'histoire médiévale, l'histoire moderne qui va à peu près du début de la Renaissance jusqu'à la Révolution française, et à partir de la Révolution française, on entre dans ce qu'on appelle l'histoire contemporaine.
Alors, je vais légèrement vous reprendre.
C'était presque ça.
Après la période médiévale, on a tout de même le XVIe siècle, qui est une période bien spécifique. Puis après, on a la période moderne, 17e, 18e, et on arrêtait traditionnellement la période moderne en 1700, avec l'Empire, le Premier Empire. Et en fait, j'ai démontré que la période moderne s'achevait. J'ai une date à proposer, le 4 août 1789, et là, on glissait. Donc, vous avez oublié la Renaissance.
Bravo à moi. on va revenir peut-être un petit peu justement sur l'accueil qui a été réservé à cette thèse. Est-ce que lorsque vous aviez travaillé dessus, vous saviez que vous alliez toucher un totem sacré et que l'histoire de France était déjà sous la coupe d'une matrice idéologique à laquelle, de toute évidence, vous n'apparteniez pas?
Alors c'est très curieux, c'est l'objet de mon repas ce midi. On m'a posé cette question. Non, je ne le savais pas. Je ne le savais pas pour trois raisons. La première raison, c'est que je suis issu d'un milieu politiquement à droite, d'une droite chrétienne classique, on ne rentrait pas dans le débat idéologique, on ne se rendait pas compte de ce que c'était le débat idéologique et notamment tout ce qu'est marxiste. Deuxièmement, je sortais d'une école classique, qui est l'abbaye Saint-Sauveur de Redon, gérée par les eudistes, les grands eudistes, les grands formateurs, et nous ne parlions pas politique ou idéologie. Je pensais que tout le monde pensait bien, tout simplement. Et la troisième raison, par nature, je privilégie toujours l'homme sur le système. Ouais. Donc, je ne pouvais pas m'imaginer ça soit l'inverse. Donc, pour répondre à votre question, non, je n'imaginais pas du tout que je mettais une bombe nucléaire dans la pensée idéologique française.
Et lorsque vous aviez proposé donc ce sujet de thèse, celui qui était votre maître de thèse, votre maître vous a pas dit attention, vous allez vous risquer dans quelque chose d'explosif et de dangereux pour vous, quoi?
Non. Mon professeur, mon directeur de thèse, est un grand monsieur, mondialement connu, peu en France, qui est le grand professeur Jean Meyer, pas le Mexicain, l'Alsacien. Et en fait, Jean Meyer a réagi uniquement par hasard sur une incompréhension d'un lieu où il se situait, c'est-à-dire à Nantes, il ne sait pas si c'était en Bretagne, en Vendée, etc. Et il a découvert au hasard de son affectation au lycée Clémenceau à Nantes, qu'il était au nord de la Vendée militaire. Et en tant qu'universitaire, c'est un homme curieux et intelligent, il a voulu savoir ce qu'était la Vendée militaire. Il n'a pas trouvé de réponse universitaire, parce que l'université, à l'époque, marxiste moins qu'aujourd'hui, mais majoritairement marxiste à l'époque.
De manière plus subtile aujourd'hui, mais toujours énormément sur certains points.
Vous croyez que c'est plus subtil? Je crois pas.
Disons qu'aujourd'hui, ce n'est plus franchement du marxisme, on sent déjà, parce que les 90% des étudiants n'ont jamais lu Marx.
Oui.
Qu'ils soient de gauche ou de droite, d'ailleurs, tout le monde s'en réclame, et personne n'allait à Lyon, on pourrait presque faire le parallèle à droite avec Charles Maurras. On a beaucoup de gens qui se réclament de Maurras, mais on s'aperçoit que peu de personnes l'ont lu. Aujourd'hui, on est plus sur un phénomène justement de déconstruction, donc on peut même plus forcément rattacher cela au marxisme.
C'est vrai.
Après, c'est un autre débat qu'on ne va pas avoir ce soir.
Et donc, Jean Meyer a voulu simplement essayer de trouver des éléments de réponse par rapport au discours officiel de l'université qui disait que la Vendée n'est pas un sujet. C'est une guerre civile parmi tant d'autres. Et deuxièmement, il n'y avait pas de matériaux, de ce qu'on appelle la matière première, pour traiter de ce sujet. Donc moi, ce qu'il m'a demandé, c'est est-ce qu'il existait ou non des matériaux pour traiter de cette période. Et quand il m'a posé cette question, moi je suis tout jeune, j'ai 22, 23 ans, il n'y a pas de méthode. En histoire, c'est chaque sujet donne naissance à une méthode spécifique. Donc il n'y avait pas de méthode, et moi je lui ai dit, écoutez, moi je ne peux pas faire ça, et on va faire un carottage au sens scientifique du terme, c'est-à-dire on va prendre au hasard une commune donnée, on va l'étudier de manière verticale et horizontale. Ouais. Ça a été le cas de la Chapelle-Basse-Mer. Et à la Chapelle-Basse-Mer, on va découvrir quelque chose d'absolument incroyable, c'est que sur une population de 3250 personnes, 900 personnes sont éliminées. Sur un habitat de 900 et quelques maisons, 51% de la valeur est détruite. Et donc, la question était, est-ce que oui ou non, la Vendée est un sujet ? Oui, la Vendée est un sujet à partir de ce carottage. Et je vais découvrir deux choses, et ça c'est un bouleversement intellectuel absolument incroyable, c'est qu'il existe bien les matériaux, mais parallèlement aux matériaux, il existe, et ça c'est incroyable, une mémoire populaire intacte. Mmh. Et en fait, c'était un énorme travail, je dirais presque sociologique, hein, oui. de quête. Et je répète toujours, à l'époque, il n'y a pas le chauffage central dans les maisons. Hein. Mmh. C'est le chauffage central qui tue la mémoire familiale. Parce que jusque dans les années 70-75...
On se retrouvait...
On se retrouve autour du foyer. Oui. Et il n'y a pas l'écran, hein, que ça soit la télévision, puis après l'ordinateur, etc. Et en même temps, on ne met pas nos arrière-grands-parents.
Parce que c'est intéressant, c'est une perte énorme pour l'historien, justement, le fait d'avoir perdu justement cette tradition orale où finalement on s'occupait ces soirées autour du feu et on écoutait les mêmes histoires qu'on se répétait de génération en génération.
En génération, et des histoires extrêmement précises. Mmh. Là, je reviens du Mexique où j'ai découvert l'histoire de la Cristiada. Ce sont les 100 ans de la Cristiada. Et en fait, les Cristeros entretiennent cette mémoire par les chroniqueurs. Mmh. Dans chaque village, il y a un chroniqueur. Mais en fait, à l'époque, dans chaque famille, il y a des chroniqueurs. Mmh. Et les Arméniens avaient fait la même chose, d'ailleurs. Mmh. Ils ont sauvé leur mémoire, les mémoires des génocides, parce qu'on réduit toujours le génocide des Arméniens à un génocide, mais il y en a deux, voire trois, par, justement, la mémoire et la sélection des archives. Mmh. Et en fait, pour la Vendée, on avait à la fois la mémoire et puis les archives. Et à l'intérieur de la guerre civile, je découvre ce que personne n'imaginait, qu'il y a un système d'extermination et d'anéantissement légal, planifié, en conscience partagée, et qu'on décide de tuer le Vendéen. C'est ça la modernité. Mmh. Non pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Et ça va donner naissance à tous les drames du XXe siècle et du XXIe.
Et toute une controverse, est-ce qu'il s'agit d'un génocide, d'un populicide, de crimes de guerre, c'est un débat qui agite encore les historiens aujourd'hui.
Alors, si vous permettez, je vais reprendre ce débat. Alors, moi, je suis de formation juridique. Oui. Je suis historien et juriste. Et à l'époque, j'étais évidemment fasciné par tout le traitement juridique de ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale. Bon, et c'est là où je vais découvrir Lemkin, et avec son fameux concept de génocide, qui est à la fois génial, mais en même temps catastrophique. Génial parce que c'est la première fois qu'on se met d'accord sur un mot pour détecter, dénoncer, sanctionner un crime hors norme. Et une catastrophe parce que c'est un mauvais mot. Donc il va falloir le définir juridiquement à l'intérieur de conventions et des définitions plus ou moins bancales qui sont évolutives, etc. Il y avait un excellent mot qui avait été inventé par le père du communisme qui était Gracchus Babeuf. Mais ce livre, je l'ai découvert après. C'est un mot extraordinaire parce qu'il n'y avait pas besoin de définition. Hein. Alors, pourquoi est-ce que j'ai utilisé ce mot ? Premièrement, parce que c'est le seul mot. Et deuxièmement, c'est le seul mot qui correspondait à ce que je découvrais. C'est-à-dire que je découvrais qu'il y avait eu la conception, la mise en œuvre partielle ou totale, de l'extermination partielle ou totale, c'est un peu compliqué tout ça, de l'extermination d'un groupe et de l'anéantissement, je répète, non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Donc c'est le seul mot qui existait. C'est un mot qui a soulevé un débat au sein de groupes d'intellectuels qui m'accompagnaient, et notamment de Pierre Chenu. Alors Pierre Chenu, ça a accaparé après cette thèse. Jean Meyer est un Alsacien. Jean Meyer, qui est né la même année, est mort d'ailleurs la même année que Benoît XVI. Il avait servi toutes les armées alliées de l'époque, plus l'armée nationale socialiste allemande.
Il faisait partie des malgré nous.
Des malgré nous, etc. Et lui, le mot génocide lui allait parfaitement. Pierre Chenu, quand j'énonçais en conclusion à ma première soutenance le concept de génocide, il a hurlé. Bien. Mmh. Et à l'occasion de mes recherches, j'ai découvert évidemment la loi, puis la filiation des choses, etc. Et il a été d'accord là-dessus. Je ne pensais pas que ça allait provoquer un premier séisme, tel un premier, parce qu'il y en a eu d'autres après, alors qu'au contraire, on aurait dû utiliser ce travail pour réfléchir sur notre histoire et anticiper.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Thomas Morel et nous sommes avec l'historien Rénal Sécher. Je rappelle que vous pouvez intervenir dans cette émission à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au standard au 01 46 51 00 85. On nous apportera vos questions et vos observations à l'antenne que nous soumettrons à notre invité. On a eu une première réaction d'ailleurs, Rénal Sécher. Quelqu'un qui se plaint. Je déplore que s'agissant de la période évoquée, on ne fasse plus désormais mention que des Vendéens. N'oublions pas tout de même que Bretons, Angevins et autres ont également eu à pâtir. D'ailleurs, le général Charette était breton.
Il a raison, effectivement. Il a d'autant plus...
On peut dire Berrichon aussi, d'ailleurs.
Oui. Il a d'autant plus raison, mais le travail reste à faire. Là, je préviens votre interlocuteur, je finis un film sur Lyon. Et d'ailleurs, comment appeler le crime commis sur Lyon?
Les exactions faites par Joseph Fouché, notamment.
Notamment. Et donc, j'ai appelé ça un citécide. Un citécide. Parce qu'il faut créer le mot. Il y a un crime de masse localisé, lié à la cité. La cité n'existe pas. Ben, c'est un citécide. Et je prends le risque de créer le mot. Ce film, il sortira au mois de septembre. Et il a raison parce que je suis en train de préparer un livre avec Guillaume Bernard.
Grand politologue, bien connu des antennes de cette antenne.
Sur la nature génocidaire de la Révolution française. Parce qu'il n'y a pas qu'un génocide. Il y a plusieurs génocides parce que c'est lié à la nature profonde de la Révolution française. Un, invisible. On tue l'autre parce qu'il est autre. Vous voyez, là, je viens visiter la conciergerie. Quand je vois les textes, je suis absolument stupéfait parce que on ne veut pas du tout voir la réalité de ce qu'était la Révolution française. On se concentre sur la terreur petite et moyenne terreur, mais on refuse d'aller au-delà. Et la Révolution française, c'est sa spécificité, elle est de nature génocidaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que tous les grands systèmes idéologiques de nature génocidaire font référence à la Révolution française.
Je vais laisser la parole à Thomas Morel, qui est sûrement des questions à vous poser. Thomas,
qu'est-ce qui explique que ce sujet des guerres de Vendée soit aussi radioactif du point de vue de la gauche? Parce qu'il y a effectivement ce débat sur les génocides, on en a également beaucoup parlé au moment du film sur Charette, il y a quelques années, où Libération avait fait une entière pour expliquer que ce n'était pas un génocide, mais...
5 pages.
Voilà, 5 pages. Je pense que les producteurs du film sont très contents, remercient encore Libération pour toute la publicité que ça leur a fait. Mais au bout du bout, il y a quand même des massacres horribles et on pourrait, même la gauche pourrait dire, en réalité, le fond reste le même, quoi. Qu'on ait le débat sur les génocides, le fond reste le même. Qu'est-ce qui explique que tout le sujet, en réalité, personne ne veut y toucher?
Oh, je crois que la réponse, elle est tout à fait simple. Hein. Pour la gauche française, la Révolution française, c'est la référence. Le leader, Robespierre, est la référence. D'ailleurs, les leaders comme... comment il s'appelle, Jaurès, Clémenceau, et puis proche de nous, Mélenchon, sans cesse font référence à Robespierre.
Des députés insoumis célèbrent chaque année la naissance de Robespierre dans sa maison à Arras, et que ça fait effectivement partie, mais ça a fait l'objet d'un numéro de Valeurs Actuelles, d'ailleurs, il y a quelques mois, où on s'est interrogé justement sur comment la guerre de Vendée revenait justement sur le devant de l'actualité, parce que finalement, tous ces vieux clivages étaient en train d'être réactivés, tout ce vieux mythe révolutionnaire, en réalité, était en train d'être réactivé.
On a cru que la Vendée allait... passe à la trappe de l'histoire. C'est ce que j'appelle le mémoricide. Hein. Bon. Et en fait, on croyait d'ailleurs qu'il n'y avait absolument plus de documents. Hein. C'est tout à fait providentiel que j'ai retrouvé ces documents qui sont intacts aux archives nationales. Hein. Ça serait l'objet d'une émission et c'est grâce aux moyens modernes, à la technologie moderne, que j'ai pu reconstituer à la fois les dossiers, je reviens toujours, moi, aux archives, hein, et à la vérité historique, et que j'ai découvert qu'au-delà des lois, il y avait une planification avec quatre plans chronologiquement ancrés, hein, et dont la finalité est bien d'éliminer de la surface nationale eh bien, les Vendéens. Bon, ça c'est tout à fait clair. Et la Vendée devait être une matrice d'élimination de masse pour la Révolution française. On s'en est servi partiellement, on parle de Lyon, mais on peut parler de Bordeaux, on peut parler du Berry, on peut parler de la Savoie. Là, je programme un film pour un petit village dans le Var, Baudouin, qui a été rayé de la carte pour un arbre de la liberté arraché. Donc, en fait, la Révolution française... Et d'ailleurs, c'est toujours le cas. La République française est toujours dans cette logique. Elle est toujours une et indivisible. Et c'est pour ça que nous avons raté notre décolonisation. Et on peut comparer ça à la décolonisation britannique, qui est une décolonisation, à part l'Inde, réussie, puisque ça a donné naissance au Commonwealth. Je rappelle toujours que le roi d'Angleterre est tout de même le roi du Commonwealth. Il est souverain d'Australie, etc. Et comment ils ont fait ? Ben, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que plutôt que d'éliminer l'autre parce qu'il était autre, on les a intégrés au système. Et en fait, on les a anglicisés. Et quand ils sont revenus dans leur pays, ben, leur référence, c'était la monarchie britannique et le souverain britannique.
Alors, avec le paradoxe, René Lesécher, que nous aussi, on formait en France toutes des élites locales. Je pense notamment à Ho Chi Minh, qui a été formé à l'université française. La plupart des chefs du FLN ont été aussi formés à l'université française, et ce qui est terrible. Mais c'est peut-être en raison, d'ailleurs, de cette tradition, on va dire, révolutionnaire de l'université française que nous, on a formé des gens pour se retourner contre nos intérêts, en fait.
Absolument. Alors, il y a une grande différence entre la formation anglo-saxonne et la formation française. C'est que nous, quand nous arrivons dans un pays, on élimine l'élite. On élimine l'élite parce qu'elle est élite. Hein. On élimine le roi, les princes, etc. On est toujours dans cette logique révolutionnaire. Et on va prendre des gens à la base que l'on va former dans le mythe révolutionnaire. Et bien entendu, l'arme se retourne contre nous, d'où la catastrophe de la décolonisation. Et d'ailleurs, je tire le signal d'alarme, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle en France, avec l'arrivée massive d'une population extra-européenne, et puis tout de même la démographie qui va réellement poser un problème, notamment pour cette raison. La crise que va connaître l'enseignement est inimaginable, et la cause est la même que la décolonisation ratée, et les effets seront... Il faut lire Lyautey, il faut revenir à Lyautey.
À quoi on assiste aujourd'hui ? C'est quoi ? La génération mai 68 qui est dévorée par ses propres enfants. Qu'est-ce qui se passe à l'université française aujourd'hui ? Parce qu'on les voit, toutes les polémiques, des salles de prière islamistes, des députés insoumis qui peuvent faire des meetings ouvertement dans les salles de l'université, des étudiants de droite qui sont presque forcés d'être déscolarisés parce qu'on attente à leur vie. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Est-ce que tout ça, ce sont des mots ? Quelle est, selon vous, la cause profonde du mal, René Lesécher ?
C'est très simple. Hein ? Tout va se passer en 44-45. Le général de Gaulle est au pouvoir et le général de Gaulle doit gérer la politique avec des systèmes idéologiquement qui ne lui sont pas favorables.
Dans un pays à 20 ou 30% communistes.
Mettons 30% armés.
Armée en plus.
Et on ne sait pas derrière ce que veut Staline. C'est-à-dire qu'il suffit que Staline appuie sur le bouton, ce qu'il ne fera pas. Et à l'inverse, il dira surtout calmez-vous. Mais Charles de Gaulle, il ne sait pas tout ça. Donc il va faire des concessions en passant à travers Torres, qui va rappeler qu'il est un traître, tout ça. On est d'accord avec
Qui est rentré en résistance lorsqu'on lui en a donné l'ordre, d'ailleurs.
Absolument. Ouais. Hein. D'ailleurs, il ne savait pas le sort qui lui était réservé en France à son retour. Bon, Absolument. Bref, il fallait faire des concessions. Or, de Gaulle, on peut penser ce que l'on veut sur lui, de lui, mais de Gaulle est un militaire. Bien, il a une notion de la nation, il a une notion de la nation universelle, il a une notion de la nation qui doit faire face à ses ennemis potentiels, qui ne sont pas forcément l'URSS, mais les États-Unis, il doit s'imposer. Bien. Donc il va donner comment aux communistes, à la fois l'éducation et la communication. Bien. Les communistes sont gramsciens.
Qui est Gramsci, auteur lu désormais à gauche et à droite d'ailleurs.
Bien, absolument. Et Gramsci, et ils comprennent que la clé de voûte de notre nation et de notre civilisation, c'est l'enseignement sur la longue durée. Mmh. Et pour contrôler l'enseignement, il faut contrôler celui qui enseigne. Bien. Et on va mettre en place un double système qui va être d'une efficacité à court, moyen et long terme, qui va se traduire par des concours pour le secondaire concours du CAPES et de l'agrégation, toujours en deux faces. Hein. L'écrit, on peut tricher. Moi, j'ai eu les meilleurs diplômes avec la gauche, parce que quand j'avais un professeur comme Le Drian socialiste, je faisais des copies socialistes.
Jean-Yves Le Drian,
je le prends par hasard. Hein. Quand j'avais un professeur marxiste léniné, je faisais des copies léninistes. À l'écrit, on peut faire ce que l'on veut. Bon, c'est facile. Il faut simplement réfléchir à ce que veut le prof et on fait ce qu'il veut et on a les meilleures notes. Moi, j'ai eu les meilleures notes avec les léninistes, les stalinistes, etc. Pas de souci.
C'est un système qui a d'ailleurs toujours cours aujourd'hui.
Toujours. J'explique ça aux enfants de mes amis en disant essaye de comprendre la pensée idéologique de ton professeur, que pour l'essentiel à gauche. Et puis, quant à l'oral, vous avez toujours deux parties, c'est-à-dire une partie académique, là on peut encore tricher. Puis après, vous avez les questions à t'y répéter. Alors là, c'est impossible, on passe pas. Je répète toujours, en France, on ne manque pas de professeurs. On manque de professeurs de gauche. C'est pas la même chose. Moi, je connais plein de gens qui aimeraient être professeurs, sauf qu'ils ne peuvent pas avoir les concours parce qu'ils pensent mal. Ça, c'est vrai pour le secondaire.
Et est-ce que il y a sur certaines, c'est certainement vrai. Est-ce que du coup, ça n'a pas créé aussi finalement un découragement où le journaliste d'ailleurs a été touché pendant des années où personne de droite ne voulait vraiment être journaliste, en tout cas, était découragé parce que bon, premièrement, tu ne trouveras jamais de travail et deuxièmement, tu vas entrer dans un environnement 100% à gauche et donc tu n'y arriveras pas.
C'est la conséquence.
Hein. Oui, comme l'université, du coup, les journalistes.
Quand j'entends dire que la bourgeoisie a abandonné le journalisme ou l'enseignement, mais parce qu'il n'y avait pas le choix. Les bourgeois, s'ils emmenaient leurs enfants vers le journalisme ou l'éducation, ils condamnaient leurs enfants à la misère, en fait. Et puis, quant à l'université, on a mis un système de cooptation. Hein. Alors, évidemment, on dira, c'est génial, parce qu'on va coopter les gens par rapport à leurs valeurs. Pas du tout. On coopte les gens majoritairement par rapport à leurs pensées, à leur comportement sexuel, etc., etc. Ce qui fait que petit à petit, les universités françaises ont glissé à gauche, et on peut le dire maintenant, la gauche maîtrise quasiment entièrement toute l'université française. Or, l'université, c'est clé. L'université, au-delà de la formation, ce sont des budgets colossaux, mais aussi c'est la recherche. Mais c'est aussi la représentation, c'est aussi un certain nombre d'actions. Quand on voit des universitaires qui ont conseillé, par exemple, pour les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques, vous avez vu la catastrophe que ça a été. Et ce sont des universitaires qui étaient... Donc, l'enjeu de l'université est majeur. Puis l'université forme les journalistes, entre autres, mais aussi les professeurs, les historiens, etc. Ça donne ce que ça donne à l'heure actuelle. Et heureusement, merci François Mitterrand. Il faut lui rendre hommage.
On attend, je pense que tous les auditeurs attendent ce que vous allez dire. Là.
Hein, il a ouvert un certain nombre de domaines au privé, et notamment un certain nombre d'ondes, etc. Et ça donne naissance à des choses qui sont stupéfiantes. Par exemple, Bolloré, qui est une chance pour la liberté.
Thomas Morel.
Oui, comme vous le disiez au début de notre entretien, votre thèse il y a 40 ans a fait énormément bouger les lignes sur la question du génocide vendéen. Est-ce que vous avez l'impression que ces dernières années, vous voyez encore des thèses arriver sur ce sujet, des travaux intéressants, ou est-ce qu'en réalité, bien que vous ayez énormément contribué au débat sur ce sujet, il est quand même resté très sclérosé?
Alors, En fait, le succès de cette thèse a été un succès national, mais aussi international. Hein. Cette thèse a été traduite à travers le monde et ça a suscité un certain nombre de recherches. Alors, vous êtes issu de l'ICES, par exemple à l'ICES, qui est une université privée.
Alors, l'animateur, moi, oui, et Thomas Morel, non, je précise pour les auditeurs.
Alors, ça donnait naissance à des recherches qui vont dans le sens de ce que j'écris il y a 40 ans. Mais pas seulement au niveau de la Vendée. Ça a ouvert la recherche. Tout à l'heure, on parlait du monopole de la gauche sur la recherche. C'est fondamental, la recherche. D'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est le niveau de l'université française au niveau national et au niveau international s'effondre. Ce n'est pas par hasard si le niveau scolaire au niveau national et comparativement au niveau international s'effondre. Parce que la recherche et la méthodologie d'enseignement est fondamentale. Bien. Mmh. Et donc, la gauche a mis la main là-dessus. Mais cette thèse a permis à un certain nombre de professeurs dans l'enseignement secondaire public ou privé, mais aussi à l'université, eh bien, de parler d'une histoire autre que celle que l'on impose d'enseigner. Alors, c'est très intéressant, parce que quand on en parle presque en catimini, en disant, vous allez passer le bac, voilà ce qu'il faut dire, mais en même temps, voilà la réalité des choses. Ça veut dire qu'on prend les jeunes et on leur apprend à réfléchir face à l'adversité. Et ça, c'est nouveau. Hein. Et puis, deuxièmement, pour répondre à votre question, c'est vrai que la recherche a beaucoup évolué, et moi je suis énormément sollicité par des jeunes chercheurs. Il y a quelques jours d'ailleurs, il y a trois adolescents de 14 ans qui allaient passer leur brevet et qui ont décidé, comme sujet de mémoire, de travailler sur la Vendée. Donc on a passé 1h30, 2h au téléphone à leur donner la matière première.
Et pardon de la question, Rénal Sécher, mais est-ce que c'était des adolescents qui venaient du hors contrat ou c'était des adolescents qui étaient scolarisés dans l'école publique républicaine ?
Alors, dans une école sous contrat.
Oui, donc sous contrat, d'accord.
Hein. Mmh. Alors, on a des cas où il y a des élèves qui prennent le risque de parler de la Vendée. Il y a des cas absolument extraordinaires où on a des affaires absolument incroyables. Témoin celle qui m'est arrivée il y a 3 ans, qui est cocasse, mais hallucinante. C'est-à-dire que le directeur du lycée de l'Immaculée Conception de Pau m'invite à faire une conférence sur la méthodologie en histoire. C'est fondamental, la méthodologie. Mmh. Ça veut dire que là, on est dans le cadre de la méthode globale, alors que moi, je suis dans la méthode classique, basée sur 4 piliers que vous connaissez, hein, la chronologie, la cartographie, les hommes, les événements. Bien, la gauche ne veut plus entendre parler de ça. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Bon, il n'y a plus d'événements, bon bref. Et donc, il m'invite et je lui dis, faites attention, parce que si vous m'invitez, vous allez être sanctionné. Mais non, c'est pas possible.
Alors vous interveniez juste pour parler de méthodologie, pas pour parler des guerres de Vendée et de
parler de méthodologie aux élèves. Ouais. Et le soir, je parlais du génocide et du mémoricide. Ben, quelle n'a pas été sa surprise, quelques semaines plus tard, de recevoir une lettre de la rectrice très marqué à gauche, hein, de Bordeaux, qui dénonçait le fait qu'il ait reçu en ses murs, alors qu'on est dans une école catholique sur contrat, un révisionniste. Et il a été sanctionné, ils ont trouvé des arguments pour le virer. Ils l'ont viré. Alors évidemment,
Valeurs Actuelles s'est beaucoup fait écho de cette affaire. On précise que c'était un des meilleurs établissements. Enfin, c'était un des établissements les plus performants de France, en plus, qui était
cinquième.
Dans les hauts du cinquième de France.
Premier des Pyrénées. Ça veut dire que ça va très très loin. Bon, celui qui ose faire des émissions à la télévision sur ce thème peut être lourdement sanctionné. Je n'ose pas citer son nom, mais on avait fait sur François une émission et celui qui m'avait invité a été chassé de France 3. Donc c'est des thèmes. Moi, je n'ai jamais assisté à un colloque en France universitaire. Je suis plus du tout invité par les médias mainstream. D'ailleurs, je suis même pas, à part mes livres scientifiques, distribué en France. Si d'ailleurs il y a des gens qui ont des solutions pour me distribuer, je serais ravi. Et à l'heure actuelle, on travaille pour l'essentiel dans la maison d'édition que j'ai fondée par Internet. Ouais. Vous voyez, on en est là dans ce pays. Hein.
Vous avez créé effectivement les éditions Rénal Sécher il y a une dizaine d'années au moins, plus que ça.
40 ans.
Ça, 40 ans.
Eh d'accord. Oui, on vieillit, mon cher monsieur.
Ah la vache, oui, d'accord. Ouais. Remarquez, d'accord, ouais, ok. Vous avez toujours vendu uniquement par Internet et
dans les bons nombres de salons, je suis interdit parce que mes valeurs ne correspondent pas aux valeurs du salon. Ça a été le cas, par exemple, au salon de la BD à Blois. Souvent, ça m'est arrivé quand j'allais dans le salon de me faire casser la gueule, par exemple. Hein. C'est très difficile de faire de l'histoire objective dans ce pays, tout de même.
c'est justement une question qu'on voudrait vous poser. Quel conseil vous donneriez à un jeune historien pas forcément de gauche, qui aurait quand même envie malgré tout de tenter une carrière universitaire ?
Polyvalence.
Ouais, et adaptabilité.
Oui, adaptabilité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être polyvalent. Alors, à l'heure actuelle, l'université propose ce genre de cursus. De mon temps, lorsqu'on voulait faire de l'histoire et du droit, il fallait faire les deux universités parallèlement. De nos jours, il y a des cursus, des filières qui permettent de faire ces deux sciences en même temps. Bien. Donc, la polyvalence. Et puis, d'essayer. Ben, vous savez, ça évolue le contexte. Vous voyez, vous, je ne pense pas que vous pensiez bien, eh bien, vous avez tout de même un travail.
Un micro, et voilà, ce
grâce
studio,
à l'heure actuelle.
Ce magazine.
Donc, est en train d'émerger dans le cadre du marché de la communication de nouvelles structures. Et la structure Bolloré est vraiment une chance pour notre pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est...
Parce que ça rééquilibre les temps de parole, entre guillemets.
Ça rééquilibre. On est à 90-10, hein, tout de même. Hein. Et le pot, moi, je ne le connais pas personnellement, mais ça doit être tout de même difficile, parce que partout, il est attaqué, parce que 90% des journalistes sont à gauche, 99% des universitaires, je parle des sciences molles, sont à gauche, etc. Donc, il y a un monologue... offensif, agressif, contre lui, c'est incroyable.
Thomas Morel.
Comment est-ce que vous avez vu le paysage universitaire évoluer depuis 40 ans ? Est-ce que vous avez l'impression que la polarisation qu'on voit ces dernières années rend quasiment impossible ce genre de travaux ? Ou est-ce que vous pensez qu'il reste encore de la place pour faire des travaux un peu intéressants, un peu originaux, un peu piquants, si je puis dire ?
Je ne voudrais pas être pessimiste. Mais la situation de l'université française est désespérante, quoi. Hein. Désespérante. Je parle de l'université institutionnelle. Hein. C'est désespérant. Elle est, comment dire, elle est. On est sur une descente, sur une planche savonnée. Alors heureusement. Grâce à l'Europe, entre autres, émerge une université libre, mais qui est toujours sous la férule de l'État. On peut, par exemple, prendre l'exemple de l'ICES, qui est vraiment un poumon d'oxygène dans le monde universitaire.
Paradoxalement, c'est Valérie Pécresse qui avait, quand elle était ministre de l'enseignement supérieur, qui avait donné davantage d'autonomie aux universités. Donc on aurait pu penser qu'elle s'éloignerait justement de la férule de l'État et qu'elle pourrait gagner un peu plus d'indépendance.
Non, parce que le système... s'auto-reproduit. Hein. C'est son fromage à la gauche française. Et d'ailleurs, au-delà du fait que son champ opérationnel s'est agrandi, il s'est en même temps déplacé vers la gauche. Hein. L'université française, on peut prendre l'exemple de Sciences Po, hein, c'est vraiment radicalisé. Hein. Et entre autres, comme elle est violemment anti-civilisationnelle, ça veut dire anti-catholique, elle est de plus en plus islamisée, c'est très clair.
Alors, avec le recul, vous referiez tout pareil, rien d'assez cher, cette thèse, l'assumer, vous battre pour cette vérité pendant autant de temps et y passer autant d'énergie et y sacrifier autant de choses, parce que on a parlé effectivement de la cause de la vérité, on n'a pas parlé des sacrifices que ça occasionne à côté.
Alors, vous savez, il y a trois niveaux de terreur. Hein. Il y a la terreur douce, c'est la deuxième terreur que les révolutionnaires appelaient la guillotine sèche, et puis Hannah Arendt parle de la terreur lourde. On est dans un système de terreur guillotine sèche. Bon, ça veut dire que c'est la mort sociale. Hein. Le seul regret que j'ai avec le recul, c'est que je n'avais pas pensé qu'on puisse sanctionner un universitaire pour avoir dit la vérité. J'étais peut-être naïf, et c'était d'une violence absolument incroyable. Hein. J'ai été vraiment sanctionné, viré, martyrisé d'ailleurs. Hein. J'ai plusieurs fois cogné. Hein. C'est quand vous subissez la guillotine sèche, tout devient compliqué. Tout devient compliqué. Si vous lisez ma fiche Wikipédia, par exemple, je suis stupéfait de ce qu'on raconte sur moi. C'est vraiment absolument incroyable. Tout devient compliqué. Alors, est-ce que j'ai des regrets ?
Le camp d'en face, à la maîtrise du récit.
Ah oui. Le système mis en place par la gauche est d'une férocité incroyable. Alors, est-ce que je regrette ? Non. Non, pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure. Et en même temps, ça m'a obligé à être intelligent, hein, à faire autre chose. Et ça m'a permis de découvrir des mondes que je n'imaginais pas et de me construire un réseau amical absolument incroyable, que pas seulement franco-français, mais que je retrouve à travers le monde. Par exemple, je suis allé il y a un mois maintenant au Mexique sur les traces de la Cristiada, et grâce à l'expérience que j'avais en Vendée, grâce à l'analyse que j'avais entre le rapport entre les souffrances de la population, c'est-à-dire de la victime, et la mise en œuvre par le bourreau de ce système, j'ai découvert justement que ce qui s'était passé par rapport à la Cristiada était exactement de même nature que ce qui s'était passé en Vendée. En fait, la Cristiada, c'est la fille de la Vendée. Et donc, j'ai été invité par un certain nombre de maires, et lorsque je leur permettais d'aborder, de monter sur la table de l'histoire et de lire leur histoire d'une autre manière, ils étaient absolument bouleversés, et on parlait des lois d'extermination et d'anéantissement qui ont été prises à l'encontre de la Vendée, qui n'ont jamais été abrogées. Là, on abroge le code noir, mais ça serait bien d'abroger les lois d'extermination et d'anéantissement sur Vendée. Eh bien, vous avez la même chose au Mexique, sauf que ces lois sont constitutionnelles. Elles n'ont jamais été abrogées. Vous voyez,
les lois de 1917.
C'est incroyable. Bon. Vous voyez, grâce à cette étude, eh bien, on découvre des choses. Le grand regret que j'ai, c'est justement le mémoricide qui a été commis en conscience partagée par les Français. Et il y a un journaliste malheureusement anonyme qui, dans les années 1930, dénonçait justement, il n'utilisait pas le mot puisque c'est moi qui l'ai créé, ce mémoricide, parce qu'il disait, si on avait encore connaissance de la réalité de ce qui s'était passé en Vendée, on n'aurait jamais eu le léninisme, le stalinisme, l'hitlérisme, etc.
Thomas Morel, dernière question pour Thomas Morel.
Vous parliez tout à l'heure de vos rencontres avec des élèves dans un lycée, notamment au Pyrénées, mais plus globalement, comment est-ce que les étudiants accueillent vos interventions ? Les enseignants, on a bien compris que globalement, ils ne vous partagent pas trop vos idées, mais comment est-ce que les étudiants accueillent le fait que quelqu'un comme vous vienne porter un discours qui n'est peut-être pas celui qu'ils attendent ?
Ah mais moi je ne suis pas invité dans l'enseignement en France, je ne suis pas invité au colloque, je suis un paria. C'est extrêmement rare que j'ai l'occasion de parler à des élèves. Si j'en ai l'occasion, c'est exclusivement dans l'enseignement privé sous contrat ou hors contrat. Je n'ai jamais été invité dans un établissement public. Vous savez, j'ai la lèpre. La lèpre intellectuelle.
Et nous sommes beaucoup à l'avoir à croire qu'une épidémie sévit très violemment ces derniers temps sur la presse, sur l'information et sur la liberté d'enseigner, la liberté de créer tout simplement. Merci Rénal Sécher d'avoir été avec nous.
Merci
à l'antenne
de m'avoir
invité. Restons pour toi du jeudi. Nous accueillons Étienne Darjac qui nous rejoint pour la deuxième partie de l'émission. Et à tout de suite, chers auditeurs. Tout d'abord, un tout petit message de votre radio.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Marc Hainaut.
Et de retour à l'antenne, chers auditeurs de l'émission Restons courtois, comme tout animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau avec Étienne Darjac et Thomas Morel. Nous venons de quitter l'historien Rénal Sécher et nous accueillons Nicolas Boutin. Nicolas Boutin qui vient nous parler des mortiers d'artifice et pas pour faire la fête, si j'ai bien compris. À vous, Nicolas.
On entend de plus en plus parler dans l'actualité. Si je vous dis que il y a trois jours c'était à Dunkerque, qu'il y a deux jours c'était à Reims, que c'était à Grenoble, et puis surtout, chers auditeurs, à Paris samedi prochain, en marge de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Arsenal, on risque de voir et d'entendre parler de ces engins qui, je pense que peut-être certains d'entre vous les ont déjà utilisés, peut-être lors d'un mariage, d'un anniversaire, ou que sais-je, d'un baptême.
Oui, c'est quelque chose de festif à la base, quoi, en fait.
Évidemment, c'est un feu d'artifice pour particulier, si je puis dire, ou en tout cas que l'on peut tirer de chez soi. Mais certains l'ont retourné comme une arme, et en particulier contre les forces de l'ordre ou les pompiers. Voire contre des prisons, des bâtiments institutionnels, des commissariats, des gendarmeries. Ouais. Et c'est un phénomène qui vraiment grandit en France et qui... pourquoi est-ce que c'est dans le feu de l'actualité, outre les événements possibles et probables de samedi soir, mais aussi parce qu'il y a la loi Riposte qui a été discutée au Sénat. Et vous allez peut-être pas me croire, mais c'est la troisième fois qu'on discute de ces mortiers d'artifice à l'Assemblée nationale, puisqu'on avait déjà évoqué et réglementé la vente notamment de ces engins en 2021 lors de la loi dite sécurité globale. Ouais. Et là encore, eh bien, malgré tout, ça ne suffit pas, et donc on va rajouter, peut-être alourdir le millefeuille législatif en mettant une nouvelle fois la loi Riposte.
C'est un peu la question qui me venait, Nicolas Boutin, parce qu'on va parler évidemment de comment est-ce qu'on se les procure, parce qu'on suppose que ça a quand même été un petit peu durci, mais on a l'impression en fait que c'est très lassant d'ailleurs presque, c'est qu'on a un enchaînement de lois qui traitent du même sujet en permanence, au final rien ne règle rien. C'est Benoît Hamon, je le rappelle souvent, mais c'est Benoît Hamon qui disait assez justement pour une fois qu'en réalité on avait eu des dizaines de lois sur l'immigration en France en très peu d'années, et que finalement que cela n'a jamais réglé la situation. Donc à quoi on peut attribuer cette impuissance totale des pouvoirs publics? Est-ce que c'est le totem de l'état de droit? Est-ce que c'est une absence de volonté politique? À quoi vous l'attribuez, vous qui voyez ces conséquences là sur le terrain, je vais pas dire quotidiennement, mais souvent, quoi?
Non, mais vous avez raison, le problème est l'application de la loi. C'est-à-dire qu'on a des lois aujourd'hui, de manière générale, si j'élargis outre la question du mortier, où on peut risquer 5 ans de prison, mais on prend 4 mois avec sursis lorsque l'on passe devant un tribunal. On a des lois où on a légiféré plusieurs fois sur la même chose. Et vous voyez, par exemple, en 2021, on interdit notamment la vente de mortiers d'artifice de plus de 30 mm de diamètre. Aux particuliers, c'est-à-dire que désormais il faut c'est les artificiers professionnels qui sont titulaires d'une autorisation préfectorale, délivrée en tout cas en préfecture, qui peuvent se procurer ces mortiers de 30 mm. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a aujourd'hui des mortiers de 29 mm qui sont vendus. Donc vous imaginez bien que c'est à peu près la même puissance, le même effet à quelque chose près. Ouais. Et puis, si on veut 30 mm ou plus, eh ben, il suffit de se rendre sur certains sites qui sont hébergés parfois en France, mais surtout dans l'Europe, des sociétés d'Europe de l'Est qui se fournissent en Chine. Et puis, on n'a même pas besoin d'aller sur le Darknet, pas besoin non plus d'être sur le marché noir. Mais
non, un compte Snapchat suffit, en fait.
Snapchat suffit. Sur Telegram, sur les boucles Telegram, on peut aller s'en procurer, en acheter physiquement dans certains quartiers. Et puis, on les voit prospérer aujourd'hui en France. On a fait des saisies impressionnantes, mais qui ne suffit pas. Je crois que près de Rennes, par exemple, on a saisi plus de 2,7 tonnes de mortiers d'artifice. En 2023, on a eu 10 tonnes selon nos informations, en 2025, dans l'Hexagone, qui ont été saisies. Et malgré tout, on le voit tous les soirs, Parce que maintenant, c'est ça, hein, tous les soirs, depuis notamment la période Covid, où ça s'est intensifié, il n'y a pas une soirée où l'on n'utilise pas le mortier.
Oui, et d'ailleurs, vous citez plusieurs exemples dans cette enquête, à retrouver d'ailleurs dans, allez, je fais la petite pub, dans le Valeurs Actuelles de cette semaine, vous avez notamment discuté avec le député ex-maire de Poissy, Carl Olive, qui a fait l'objet d'une attaque d'ailleurs au mortier lors de la campagne municipale, dans un café du quartier Racine à Poissy très précisément. 5 blessés au total, le député a lui-même écopé de 6 jours d'incapacité totale de travail, donc 6 jours d'ITT, et on lit son témoignage, je n'ai jamais vu ça à Poissy, un éclat de mortier aurait pu atteindre un enfant dans une poussette à un mètre près. L'enquête est toujours en cours, 4 mineurs sont mis en cause et placés sous contrôle judiciaire, donc concrètement il se passera rien quoi en fait.
Alors, en fait, il faut que vous vous rendez compte, chers auditeurs, c'est que un mortier, c'est quelque chose qui sort à plusieurs centaines de kilomètres, d'heures, pardon, et qui peut aller sur une dizaine de mètres. Et lorsque ça frappe quelqu'un, ça peut occasionner évidemment des brûlures, mais aussi des fractures. Ça peut, si ça atterrit dans les yeux, dans le visage, occasionner vraiment des dégâts terribles. Et aujourd'hui, pour l'instant, il n'est pas considéré comme une arme par destination, ce qu'avait demandé le ministre Gérald Darmanin lorsqu'il était à l'intérieur. Il est aujourd'hui classé dans la catégorie F3 et F4 des produits pyrotechniques. Mmh. Mais on est sur quelque chose de véritablement dangereux et qui fait du dégât et qui peut aussi, même si on ne vise pas quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Cannes il y a à peu près 10 jours, où là on a des gens qui sont pas du tout agressifs, mais qui ont fêté la montée du club de football local en division supérieure à coups de mortier. Et comme le mortier est quand même quelque chose de très puissant, eh bien il y a un effet recul, vous savez, un peu comme sur certaines armes.
Bien sûr.
Eh bien, donc ça lui a échappé, c'est rentré dans la fenêtre d'un immeuble qui a pris feu. Donc c'est aussi ces dangers là. Et donc là, pour le coup, on est sur de l'involontaire, a priori, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu une vraie arme qui est aujourd'hui à s'attaque aux politiques comme à Carl Olive. Comme je vous le disais aussi, dans les prisons, c'est-à-dire qu'on fait des attaques aux mortiers dans les prisons, ça fait du bruit, ça attire l'œil, ça attire l'attention des surveillants. Et pendant ce temps-là, par exemple, quelques drones peuvent passer, ouais, et donner livrer quelques produits illicites au cœur de la prison sans être vus. Et pris, du coup.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie, chers auditeurs, dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Étienne Darjac, éditorialiste, Thomas Morel, journaliste au service Économie et Société de Valeurs Actuelles. Nous sommes avec Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région, auteur d'une enquête passionnante sur le marché du mortier d'artifice. Ces artifices normalement faits pour fêter quelques réjouissances et qui servent évidemment d'armes par destination. Vous les voyez régulièrement sur toutes les chaînes info employées à mauvais escient. Thomas Morel, vous aviez une question, une remarque à faire à Nicolas Boutin. Je rappelle avant cela, chers auditeurs, que vous pouvez évidemment réagir à cette émission par courriel à l'adresse courtoisie@rc.fr. et par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Thomas Morel pour Nicolas Boutin.
Bonsoir Nicolas. Bonsoir, ma question était en fait, si les règles telles que les lois essayent de les imposer sont contournées à chaque fois, si les sites internet qui vendent ces produits-là sont à peu près impossibles à démanteler parce qu'il suffit de les fermer et de les rouvrir ailleurs, si, comme vous l'écrivez également dans cet article, à chaque fois qu'on prend un arrêté préfectoral, il sert à peu près à rien, qu'est-ce qui reste en fait comme solution pour essayer d'endiguer ce phénomène? Est-ce qu'il faut interdire toute forme de pétard, tout ce qui contiendrait de la poudre, ou est-ce qu'en réalité il faut juste croiser les doigts?
En tout cas, ce que demandent déjà dans un premier temps les professionnels du secteur, qui sont notamment les artificiers professionnels, ceux qui œuvrent pour ces grands feux d'artifice, notamment dans les villages, dans les fêtes de village, au 14 juillet, parfois à Noël, et qui attirent de plus en plus de monde encore aujourd'hui, pour des moments vraiment de liesse, hein, populaire et de vraiment magnifique, qu'ils demandent, ces professionnels-là, puissent interdire l'accès à ces sites depuis la France, comme on a pu interdire, par exemple, Coco, le site qui servait de chasse à des enfin, de rencontre à des.
Je vais reformuler Nicolas Boutin. Coco est un réseau social qui a été fermé par la justice, qui est en train d'ailleurs d'essayer de revenir et du coup fait à nouveau l'objet de poursuites judiciaires parce que ce réseau social qui était à la base officiellement fait pour des adolescents servait évidemment de terrain de chasse à des pédophiles ou en tout cas à des personnes soupçonnées de vouloir entrer en contact avec des mineurs pour des raisons tout à fait condamnables par la justice et la morale.
Bah voilà, vous
fin de l'insert. Nicolas.
Pour pouvoir vraiment bien le définir, mais en tout cas, oui, il est possible de fermer des sites, d'empêcher l'accès à certains sites, et puis aussi de encore une fois, de vérifier ou en tout cas de contrôler les importations qui peuvent se faire, peut-être dans certaines adresses connues, notamment de personnes qui ont été condamnées par la justice. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une sorte d'inefficacité. On aura une nouvelle loi qui va de nouveau interdire, peut-être cette fois-ci, la détention aux mineurs, la détention de peut-être sévir sur ceux qui vont tirer contre les policiers, par exemple. Mais encore faut-il les arrêter.
Étienne Darjac, je ne vais pas tirer un feu d'artifice pour vous souhaiter la bienvenue. Néanmoins, ça fait plaisir de vous voir. Une opinion sur comment est-ce qu'on peut réprimer finalement l'usage, le détournement de l'usage de ces mortiers d'artifice.
Oui, Marc, une opinion tranchée, je vais vous surprendre. Peut-être qu'il faudrait envisager le problème différemment et envisager que le problème, ce ne sont pas les mortiers d'artifice, mais ceux qui s'en servent en fait. Vous l'avez dit, Nicolas, c'est très compliqué d'interdire la vente de ces choses-là, mais l'interdirait-on que les gens qui les utilisent à mauvais escient trouveraient d'autres instruments pour s'en prendre aux policiers, pour faire du dégât, pour faire du bruit. Ça peut aller de la vouvouzela au lance-pierre, si vous voulez. C'est une course sans fin. Il ne s'agit pas, si vous voulez, de... Je crois que c'est une phrase de Renaud Camus, de
légiférer. Vous avez le droit.
Oui, j'ai le droit. De légiférer l'enfer, si vous voulez. Il y avait récemment eu, je crois, une énième affaire de jeunes poignardés. Il y avait eu un arrêté municipal qui interdisait le port du couteau, même des couteaux de poche, dans je sais plus quelle ville.
Absolument, vous n'avez plus le droit de couper votre saucisson ou votre morceau de brie
sur
la voie publique.
Comment ?
Pardon, Nicolas Boutin.
Il y a les amendes forfaitaires aussi délictuelles,
ouais, voilà.
Les AFD qui ont été mis pour ceux qui sont en position de couteau, effectivement.
Donc, si, en fait, si vous voulez, dans les deux cas, le problème, c'est ni les couteaux ni les feux d'artifice. Le problème, c'est qui s'en sert et pourquoi. Donc, on aura beaucoup plus vite fait de sanctionner durablement les gens qui s'en servent, de les mettre en prison, voire de les expulser quand c'est possible, que d'interdire le feu d'artifice, puis le pétard, puis le lance-pierre, puis le compas, puis ce que vous voulez. Si vous voulez, c'est un puissant fond, cette histoire.
Étienne Darjac doit-il être nommé ministre de l'Intérieur ou ministre de la Justice ?
J'y
vous pouvez voter à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr. Thomas Morel, c'est à vous.
Oui, j'avais une autre question pour vous, Nicolas. Je ne sais pas si vous avez pu parler à des professionnels qui justement organisent ces grands feux d'artifice que moi j'aime beaucoup voir, que peut-être vous aussi Marc, peut-être vous aussi Nicolas.
Bien sûr, que nos enfants adorent voir surtout. C'est toujours
Est-ce qu'eux-mêmes craignent justement de... d'être, je ne sais pas, dévalisés ou qu'on vienne piocher dans leur stock pour ensuite utiliser ces feux d'artifice à des fins peu recommandables.
Alors c'est un risque, c'est évidemment un risque. Après, vous savez, c'est des entreprises, où, en tout cas notamment dans les stocks, qui sont quand même très protégées. C'est quand même très protégé, les entrepôts où sont stockés les artifices, parce que vous imaginez quand même la dangerosité si demain, enfin je sais pas si vous vous souvenez, notamment on a déjà vu des incendies de type qui donnent des explosions assez impressionnantes. Donc il y a toujours évidemment un risque, un danger. C'est pas forcément leur première crainte. Ce qu'ils ont peur, eux, surtout, c'est de... un petit peu pour ce que disait Étienne Darjac, c'est qu'on interdise tout ce qui est pyrotechnique.
Votez Darjac.
Votez Darjac, vous pouvez voter Darjac. Est-ce qu'on est de courtoisie en vaserc.fr. Cette fin d'émission est compliquée. Merci Nicolas Boutin d'avoir été avec nous pour nous parler de cette enquête que vous avez réalisée dans le Valeurs Actuelles Nouveau sur le marché du mortier d'artifice. À moins que vous ayez... Il vous reste une minute si vous voulez conclure cette enquête et peut-être faire passer un message quel qu'il soit. Nicolas Boutin, vous avez une libre antenne de 45 secondes.
Eh bien, écoutez, en tout cas, si vous êtes à Paris samedi soir, je pense que si vous entendez péter, surtout ne restez pas près de tout ça, parce que c'est extrêmement dangereux, ce genre de mortier. Et faites confiance qu'à ceux qui savent les tirer pour célébrer de réelles occasions, comme des baptêmes, des mariages ou des anniversaires.
Et surtout, n'oubliez pas de garer votre voiture ailleurs que dans... alors, je crois que la finale a lieu au Stade de France ou au Parc des Princes.
Non, pas du tout, elle est à
Budapest. Budapest, oui, pardon.
Les journalistes ne s'informent pas,
c'est terrifiant. Et oui, il y a effectivement des grands risques de débordement. La préfecture craint d'ailleurs que la soirée tourne au chaos. Donc surtout, ne garez pas vos voitures dans Paris... et pas dans les centres urbains, éloignez-vous de toute personne humaine vivante dans un rayon de 30 km, partez dans les bois. Enfin bref, et le lendemain ça ira mieux. Merci Nicolas Boutin d'avoir été avec nous pour votre rubrique Territoire Encarté. Restez avec nous chers auditeurs puisque l'émission continue. Thomas Morel qui nous avait préparé une petite chronique. D'ailleurs Thomas, vous vouliez nous faire part de votre soulagement à cette occasion.
Et oui mon cher Marc, parce que ça faisait plusieurs mois que nous étions sans nouvelles de Laurence Descartes. Pour ceux qui l'auraient oublié, Laurence Descartes, c'est l'ex-présidente du musée du Louvre qui avait démissionné le 24 février dernier sous la pression médiatique, après le vol spectaculaire des joyaux de la couronne qui n'ont jamais été retrouvés et d'ailleurs ne le seront probablement jamais. Entre parenthèses, je dis sous la pression médiatique parce que jusqu'au bout, le président de la République l'a assuré de son soutien, au point même qu'il avait refusé une première démission qu'elle avait déposée juste après le vol qu'il aurait pu accepter, qu'il avait donc refusé. Nous étions donc sans nouvelles de Laurence Descartes, mais heureusement, la fumée blanche est apparue il y a quelques jours sous les traits d'un décret paru au journal officiel.
Et que dit-il ce fameux décret, Thomas Morel ?
Eh bien, il lui offre un poste, accrochez-vous bien, d'experte de haut niveau pour exercer les fonctions de référente diplomatie muséale du G7 auprès de la directrice générale des patrimoines et de l'architecture. C'est un beau titre, avec un beau salaire également, puisque d'après la grille officielle, elle pourrait toucher jusqu'à 5 800 € bruts de traitement indiciaire, auquel s'ajoute un maximum de 5 600 € de prime mensuelle elle aussi.
Ah oui, quand même, c'est plafonné.
Voilà. On arrive tout de même à un maximum de 11 000 € par mois, ce qui, quand on était en place au moment du pire fiasco des 30 dernières années, est quand même plutôt pas mal.
Pas fou.
Parce qu'il faut quand même se souvenir des conclusions des différents rapports sur la sécurité du Louvre. Il y en a eu un de la Cour des comptes, qui est paru par un pur hasard quelques semaines après le braquage, et qui révélait qu'entre 2018 et 2024, 145 millions d'euros avaient été consacrés à l'acquisition de nouvelles œuvres, et seulement 3 millions avaient été réellement engagés pour assurer la sécurité du musée. Mmh. Il y avait également eu quelques années plus tôt, un audit de sécurité du geôlier Van Cleef & Arpels, qui avait pointé précisément le balcon où sont passés les voleurs comme la faille principale du musée, un endroit où on pouvait passer pour faire un cambriolage. Mais... totalement oublié de la mémoire collective. Bref, le vol des joyaux n'était pas un coup de malchance, mais le fruit d'une succession de mauvaises décisions et d'oubli. Ce qui n'a donc effectivement pas empêché la présidente du musée au moment des fêtes de bénéficier d'un recasage de premier choix. Comme quoi, le soutien d'Emmanuel Macron, ça vaut de l'or.
D'ailleurs, parlons-en de ce recasage, puisqu'on on connaît le montant, mais c'est quoi exactement la diplomatie muséale, Thomas Morel ?
Eh ben, je suis obligé de vous dire que je ne sais pas trop. C'est-à-dire que dans l'idée, on peut assez facilement imaginer ce que c'est que la diplomatie muséale. Ça pourrait consister à faciliter des partenariats, des échanges d'œuvres entre les grands musées du monde, une sorte de diplomatie douce pour éviter les anglicismes. Le problème, c'est que le poste n'existait pas avant elle. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques semaines, personne se disait « Ce qui manque vraiment au G7, c'est un expert de haut niveau sur la diplomatie muséale. » Et d'ailleurs, on va être très honnête, le temps qu'on éclaircisse la chose, la question se posera même plus, car la mission de Mme Descartes aura pris fin. Puisque la présidente française du G7, elle court jusqu'au 31 décembre. Si bien que le 1er janvier 2027, il ne restera rien de tout ça, si ce n'est quelques dizaines de millions d'euros en moins dans les caisses de l'État, parce qu'on est vraiment à ça près. Et il restera aussi cette question, vraisemblablement toujours sans réponse, ils sont où les joyaux de la couronne ?
On va finir par se demander...
Bravo Thomas.
Oui, bravo. Merci Thomas pour cette chronique, parce que ce qui est absolument génial, c'est que vous qui travaillez au service économique, vous êtes bien placés pour savoir que nous sommes ruinés, que le pays est ruiné, qu'il n'y a plus un sou devant nous, que la classe moyenne décroche, que nous sommes le pays aux 1000 milliards de dettes, mais on trouve quand même, et la grande magnanimité d'Emmanuel Macron qu'il faut saluer, on trouvera toujours quelques dizaines de milliers d'euros pour recaser les copains, fussent-ils les pires incompétents de la Terre et dont l'incompétence, c'est-à-dire humilier la France à l'échelle mondiale. C'est absolument redoutable. Restez à l'antenne, chers auditeurs, parce que le pire, c'est que Thomas Morel nous en trouve souvent des comme ça. Donc, suivez bien nos émissions, parce qu'on pourrait vous en trouver d'autres. L'émission continue, chers auditeurs, puisque nous accueillerons à 18h45 le député du Pas-de-Calais, Emmanuel Bléry, avec qui nous reviendrons sur les meilleures façons de réguler le loup, ce prédateur que... nos ancêtres se sont acharnés à éradiquer pendant des siècles et que nous voyons revenir en masse sur notre territoire. On reviendra là-dessus avec le député, et puis évidemment nous continuerons de parler d'actualité puisque celle-ci est riche. On va parler de Gabriel Attal. Allez, on va parler à propos de loup, à propos de jeune loup. On va parler de Gabriel Attal, ex-premier ministre d'Emmanuel Macron. On le rappelle, l'image avait fait un petit peu le tour de France du jeune Gabriel Attal fauché en pleine ascension, remplacé à Matignon par un dinosaure sur le retour qui s'appelle Michel Barnier. Gabriel Attal a donc lancé sa campagne présidentielle fin de semaine dernière, ça m'a marqué, ça m'a terriblement marqué, dans un petit village de l'Aveyron, le très parisien, le très germano-pratin Gabriel Attal, en campagne dans l'Aveyron. On le voit manger un aligot-saucisse à l'heure du déjeuner, on le voit le lendemain matin avec une assiette de tripou à la main, c'est tellement chiracien que c'en est totalement... peut-être pas très sincère. Étienne Darjac, vous avez suivi cela. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce lancement en campagne de Gabriel Attal?
Écoutez, ça m'inspire beaucoup de choses, sans doute beaucoup de mépris d'abord.
ça purifie.
Voilà, exactement. On a Gabriel Attal qui se cherche, voilà, qui est un jeune homme, hein, donc il n'a pas encore forcément trouvé son identité. C'est un jeune pro, exactement. Ouais, et qui, après avoir joué les premiers de classe parisien en costume bien cintré, arrivé en haut, plus haut que tout le monde, ces derniers mois, essaye de se réinventer l'identité, essaye de se sortir un peu du carcan parisien, et donc nous a joué finalement un peu Tintin au Congo, version macroniste en province, ces derniers jours. Alors on l'a vu effectivement manger des aligots saucisses. Alors c'est une excellente initiative, hein, que je ne peux qu'encourager à titre personnel.
Tous nos votes de soutien aux animateurs de cette filière.
On l'a même vu, et j'ai trouvé que ça ne manquait pas de sel, boire un demi de bière à 9h du mat sur un marché. Encore une fois, c'est une pratique que j'encourage. Hein.
Mais oui, mais... Pardon, alors je vais vous couper, Étienne, mais moi c'est justement ça qui m'a exaspéré, figurez-vous, c'est que... Alors, j'ai été journaliste local, ça m'est arrivé de me retrouver très tôt à la fête de la tripe à la mode de Caen.
Eh ben, vous avez la chance.
Mais vous êtes là pour couvrir la fête de la tripe à la mode de Caen, vous arrivez le matin, vous devez partir tôt, vous n'avez pas d'autre choix que de manger de la tripe à 9h du matin, parce que vraiment, alors, vous êtes payé pour ça, et ça c'est formidable,
faut quand même le dire. C'est magnifique.
Mais le principe de manger du tripou le matin, comme si... Les Aveyronnais,
oui,
manger du tripou au petit déjeuner, buvaient de la bière à 9h du matin. C'est ça qui est hallucinant,
C'est pour ça que je vous disais, je vous parlais de Tintin au Congo et macroniste en province. On est dans le déguisement, la caricature, mais en fait, Gabriel Attal, il est arrivé là, il s'est dit, oh, ils sont rigolos, ces gens, ils ont un accent marrant, ils sont super accueillants, dis donc. Je vais faire comme eux, et ces gens-là, bah, ils doivent bien être alcooliques, j'imagine, et manger que de la merde, et pas du tofu. voilà. Et donc, il s'est dit, bah, je vais faire comme eux. Bon, manque de bol, en fait, Gabriel, les demi de bière à 9h du matin, jeudi, c'est assez rare. Encore une fois, c'est malheureux.
Mais encore une fois, on n'a pas les chiffres qui prouvent ce que vous dites. Voilà, on n'a pas tous
donc,
les chiffres.
Non, mais plus sérieusement, et j'ai eu l'occasion déjà d'en parler, je crois, il est temps que cette présidentielle se lance, et pour qu'elle se lance, il est temps que les grandes personnes se mêlent un peu de cette histoire.
Qui mettez-vous chez les grandes personnes,
évidemment, Marine Le Pen, le jour où on saura si elle peut être candidate ou pas, ou Jordan Bardella par ailleurs. Je mets François Hollande, je mets Mélenchon qui s'est lancé, c'est vrai, mais bon, encore un peu timidement. Enfin, je mets des gens qui savent faire de la politique, qui sont un tout petit peu, quoi qu'on pense de leurs idées, crédibles. Parce que pour l'instant, si vous voulez, entre Gabriel Attal, Glucksmann, comment s'appelle-t-elle l'autre écolo là?
Marine Tondelier, qui veut créer l'Assemblée nationale des enfants. La campagne présidentielle n'a même pas commencé, on en est déjà à ces mesures-là. Je pense qu'elle est épuisée.
On a Bruno Retailleau qui est quand même tellement fort qu'il est déjà en mai 2027-26 à envisager de retirer sa candidature pour soutenir le macronisme. Enfin, pour l'instant, c'est le bal des médiocres au château fantôme, quoi.
Là, je laisse la parole à Thomas Morel. La petite phrase de la journée, elle est attribuée à Édouard Philippe, qui a eu ce bon mot sur France Inter, en disant « C'est bizarre cette histoire de table. Gabriel Attal dit qu'il veut monter dessus. Bruno Retailleau dit qu'il veut la renverser. Il va falloir qu'ils se parlent parce que s'ils le font en même temps, il y en a un qui va se faire mal. » On va lui reconnaître ça quand même. On va lui reconnaître quand même l'usage du bon mot. Thomas Morel sur la candidature de Gabriel Attal.
Le problème de Gabriel Attal, c'est qu'il est effectivement très bien formé. Il oppose très bien. Mais il a absolument aucune expérience du monde réel. Je vous rejoins un petit peu quand vous disiez que, effectivement, les Aveyronnais ne mangent pas de tripou au petit déjeuner. On va faire un petit jeu pour les auditeurs qui connaissent Paris, sinon essayez de trouver une carte rapidement. Je vais vous faire un peu le parcours de Gabriel Attal depuis son enfance.
Ah, vous avez bossé, Thomas.
Il a grandi dans le 14e arrondissement de Paris. Ensuite, il a été à l'école alsacienne, c'est dans le 6e arrondissement de Paris. Ensuite, il a été à Sciences Po, c'est dans le 7e arrondissement de Paris, et à Assas, dans le 6e arrondissement de Paris.
Il a quand même changé d'arrondissement.
Il a fait un premier stage à l'Assemblée nationale, dans le 7e arrondissement de Paris. Ensuite, il est entré au cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, dans le 7e arrondissement de Paris.
En 2013,
absolument. Il a été, attention, accrochez-vous, élu député à Vanves dans le 92, il s'en canaille. Il est devenu secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, 7e arrondissement, on y revient. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, toujours 7e arrondissement. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, le bureau Matignon, c'est en face du ministère de l'Éducation nationale.
Mais il a traversé la rue pour trouver un travail, vous êtes marrant, il a entendu Emmanuel Macron.
Il a été ministre des Comptes Publics. Bercy, c'est un peu plus loin, c'est dans le 12e arrondissement, il a peut-être fait prendre son passeport, je ne sais pas. Il est redevenu ministre de l'Éducation nationale, retour dans le 7e, et enfin, Premier ministre, c'est-à-dire retour à Matignon. C'est quelqu'un dont la carrière entière peut se faire en 15 minutes à pied dans le centre de Paris.
C'est génial, c'est le triangle, même... c'est un triangle en fait, un petit triangle d'or au milieu de Paris. Quoi.
C'est, je veux dire, non, cet individu là.
Matignon-Bercy en 15 minutes, il va falloir le montrer Thomas.
Oui, alors. Vous savez que Bercy, vous pouvez le faire en bateau depuis la Seine.
Il y a un bateau. Le ministère a son propre bateau pour.
C'est formidable.
Je n'y connais rien en économie, mais j'ai toujours dit que je voulais être le patron de Bercy juste pour avoir mon bateau pour aller à l'Assemblée nationale. Ça, vous voyez, c'est quand même classe.
C'est moins classe que l'hélicoptère, mais ça marche quand même.
On parle quand même de quelqu'un qui n'a aucune expérience en dehors de la haute fonction publique, aucune expérience dans le privé, dont toute la vie, effectivement, se résume, ou presque, se résume au 6e et au 7e arrondissement, qui sont quand même les deux plus beaux quartiers de Paris. Je veux dire, ça ne peut pas faire un président de la République sérieux. Il faut avoir un peu vécu. Même Jacques Chirac a quand même essayé de se trouver une implantation locale avant de devenir ministre.
Absolument, mais il s'est implanté en Corrèze, bien évidemment. Et ça, ça s'efface, ça, quand même, pour vous, Étienne Darjac, le côté... très très parisien, parce que
ça s'efface, pardon Marc, je vous ai pas laissé finir votre question.
Non mais vous voyez,
ça s'efface à condition,
il arrive en retard avec la parole.
Ça s'efface à condition d'avoir le profil et le j'allais dire le caractère qui va avec. On reproche beaucoup moins à Jordan Bardella, qui n'a pas beaucoup plus bougé dans sa carrière, d'être un Parisien que Gabriel Attal. Alors certes, Gabriel Attal vient des très beaux quartiers.
Alors, Jordan Bardella a quand même été élu 2 fois député européen, donc oui, il est allé en Belgique.
Ça fait Bruxelles, je l'accorde. 2 heures de Thalys. On peut aller en banlieue en moins de temps que ça. Donc non, c'est surtout que en fait Gabriel Attal, il a cette histoire personnelle qui après tout est la sienne, elle le regarde, mais il a le profil politique qui correspond à la caricature de ce mode de vilain. C'est ça qu'on lui reproche. Si vous voulez, il aurait pu avoir exactement les mêmes idées et avoir passé 12 ans dans le Vercors, on lui ferait le même reproche. C'est pas tellement une question de... Même si la démonstration de Thomas était particulièrement brillante, et je suis très impressionné par sa carte, faut mettre en relation son parcours de vie, qu'est-ce qu'il est, et les idées, les convictions, le mouvement qu'il incarne.
Ouais.
Et c'est quand ces deux choses se rejoignent que Gabriel Attal s'incarne comme le Parisien ultime, quoi.
Dernière question avant d'accueillir le député Emmanuel Bléry. On a quand même cette multiplication des candidatures dans le bloc central. Alors, on n'a que les 3 officiels, entre guillemets, que sont Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau. On sait que Jean Castex fait tout pour y aller. On sait que Aurore Berger a dit qu'elle était potentiellement candidate.
Darmanin,
on sait
que
Gérald Darmanin, qui pour l'instant a dit je me rallie derrière Édouard Philippe parce que c'est le plus à même de rassembler tout le monde. Xavier Bertrand, ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même sur une part du gâteau qui est quand même, la portion est extrêmement congrue. On rappelle que les macronistes sont passés de majorité totalement absolue en 2017 à composante minoritaire d'un bloc central lui-même minoritaire. Ne serait-il pas trop nombreux, Thomas Morel?
Il y a quand même quelque chose, c'est je suis un peu les sondages présidentiels pour un projet que je prépare pour Valeurs Actuelles. Il n'y a pour l'instant que Édouard Philippe qui est testé. Personne ne se pose la question de Gabriel. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, personne ne se pose la question de Gabriel Attal. Il y a évidemment Bruno Retailleau, mais personne ne se dit « Tiens, on va demander aux gens si Xavier Bertrand est un candidat potentiel. » Un sondage, ça coûte cher, donc les hypothèses farfelues, on les évite en général.
Attention.
Prenez ça, Xavier Bertrand. Étienne Darjac, pour conclure la séquence.
Je parlais tout à l'heure de balle des minables au château fantôme, c'est à peu près ça. C'est, d'ailleurs, c'est assez curieux parce que c'est, y a la même chose à gauche, hein. Ouais. Y a plein de petits candidats. Alors, il y a Mathieu Pigas, il y a Natacha Polony, j'ai vu. Je sais pas si vous avez vu ça aujourd'hui, là.
Alors, vous la mettez à gauche. Ok. Mais oui, ça pourrait faire un débat, ça aussi.
Oui, oui. Par contre, débat qu'on n'aura pas. Parce que
non, parce que non. Parce que le chevénantisme, merci.
Oui, bon, voilà. Donc, c'est, et j'observe assez étonnamment. Et c'est vrai qu'on se moque beaucoup des républicains. Mmh. A raison, il faut se moquer des républicains. Mais finalement, républicains, il y a Retailleau. Et c'est tout. Mmh. Il y a Wauquiez, on sait qu'il prépare quelque chose. Bon. J'ai Reconquête, on hésite un peu entre Zemmour et Info, mais après, à part ça, c'est plutôt calme à droite. Donc je constate que c'est plutôt.
Vous avez oublié
le
Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot.
Qui ça? Pardon.
Quand même, écoutez.
Non, je suis méchant.
Non, écoutez, Nicolas Dupont-Aignan est comme officiellement candidat à l'élection présidentielle. Il fait 4% à chaque élection, c'est pareil.
Je retrouve ses signatures.
Je ne les mets pas dans ce calcul parce que là, quand vous parlez des Darmanin, Castex, Attal, Édouard Philippe, ils sont tous sur le même créneau. Ils sont candidats contre les autres, a priori. Nicolas Dupont-Aignan, il sera candidat dans son couloir, Philippot dans son couloir, et si vous voulez, c'est pas un opposant interne qui vient faire la guerre à son copain pour savoir qui ira à la course, quoi.
Merci Étienne Darjac, vous êtes à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois. Comme vous avez pu le voir, l'annonce de candidature de Gabriel Attal ne nous a pas laissé de marbre. Petit message de votre radio, courte pause musicale et nous revenons pour interroger le député RN du Pas-de-Calais, de la première circonscription du Pas-de-Calais, Emmanuel Bléry, avec qui nous reviendrons sur les meilleurs moyens de lutter contre le loup. À tout de suite.